Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est dans la voiture que j'ai pensé à quelque chose, et notamment à une comparaison qui me vient en tête entre cette fête qui nous est chère à nous, catholiques français, la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, qui, vous le savez, a été pendant longtemps la fête patronale de notre chère France, et cette autre fête qu'on y a substituée, qu'on appelle fête nationale, celle du 14 juillet. Je sais que ces remarques vont... Je ne cherche à complaire à personne, mais je sais qu'au premier rang, on goûtera ces remarques. Voilà, je ne voudrais pas effacer ce si beau mystère de la Vierge Marie et cette gloire lumineuse de Marie au ciel par des considérations politiques, mais voilà, je pense pouvoir nourrir quelque peu et notre culture et également notre foi par ce rapprochement. Quelques mots sur ces deux fêtes. Louis XIII attendait de sa femme qu'elle lui donne un fils qui puisse lui succéder sur le trône de France, mais voilà que la reine n'avait pas la possibilité d'enfanter, et il suscita de la Vierge Marie, il sollicita de la Vierge Marie plutôt un miracle tel qu'on en voit dans l'Ancienne Alliance et tel qu'on en voit dans la Nouvelle Alliance, et notamment avec la Vierge Marie, puisque sa femme devait enfanter et la Vierge Marie l'exauça. Alors, pour rendre grâce à la Vierge Marie qu'il avait tant supplié d'avoir un fils qui naquit sous le nom, vous le savez, de Louis Dieudonné, qui deviendra le roi soleil et dans lequel éclatera la gloire de la royauté française, ainsi que la gloire de l'Église, notamment par un Bossuet, évêque de Meaux. Bref, je ne vous présente pas tous ces personnages hauts en couleur que vous connaissez parfaitement. Voilà que le roi, en reconnaissance à l'égard de la Vierge Marie qui avait permis ce miracle, et donc la perpétuité de la dynastie capétienne par Louis Dieudonné, voilà que la Vierge Marie était honorée par une fête qu'on fixa le 15 août. Le 15 août n'était pas une date anodine parce que depuis des siècles, et en Orient avec la fête de la Dormition de la Très Sainte Mère de Dieu, et même en Occident avec l'Assomption, on parlait déjà d'Assomption, bien avant que le dogme ne fût proclamé par Pie XII, celui-ci, en 1950, on honorait déjà la Vierge Marie. Et voilà que Louis XIII demandait à la France entière de se rendre en liesse par des pèlerinages et par des processions le 15 août dans les sanctuaires pour y vénérer la Très Sainte Mère de Dieu montée au ciel dans la présence de la Trinité. Par contraste, le 14 juillet, qui a été érigé fête nationale seulement en 1880, le 14 juillet fait mémoire d'événements bien différents. Il s'agit d'abord de la prise de la Bastille, de glorieuses mémoires, soi-disant, pour notre bonne République française, alors qu'il n'y avait, vous le savez, qu'à peine une dizaine de prisonniers dans cette Bastille qui était symbole de l'absolutisme royal. En même temps que tombait la Bastille, tombait précisément la monarchie absolue de droit divin et la société par ordre, c'est-à-dire cette vénérable France qui avait perduré pendant si longtemps, qui avait fait la gloire de notre nation, et l'on y substituait justement une nouvelle nation. Un an plus tard, le 14 juillet 1790, avait lieu la fête de la Fédération, au cours de laquelle fête on demandait au supplice, on demandait à Louis XVI de bien vouloir prêter serment à la nation et à la loi. Voilà que la loi n'était plus incarnée par le roi, voilà que la patrie n'était plus incarnée par la tête de la patrie qui est le roi, mais qu'il lui fallait, lui, roi, se soumettre à cette entité étrange, cette entité qui avait été formée de toutes pièces par les philosophes des Lumières et par les juristes girondins notamment de la première révolution qui faisait de la France désormais une nation. Et c'est là que le bât blesse, et vous allez voir que le contraste est très grand avec la conception que nous avons, nous, dans l'Église, de ce qu'est la race humaine, ou de ce qu'est une patrie humaine, et du chemin qu'elle doit emprunter pour permettre à ses sujets d'arriver à la gloire. Cette nation-là était une entité absolument fictive, quelque chose qui ne relevait, encore une fois, que de la pensée en chambre de nos philosophes et de nos juristes de la fin du XVIIIe siècle. Il fallait que, pour entrer dans cette nation, adhérer à un pacte commun, adhérer à un contrat social, vous connaissez le terme parce que Rousseau l'a rendu fameux, il fallait se soumettre ensuite à la soi-disant volonté générale, ou la volonté nationale, qui évidemment était exprimée, sinon confisquée, nous le savons bien, par une élite qui siégeait au Parlement. Voilà que cette nouvelle conception de la la France, de la société humaine, prévalait à partir du 14 juillet 1790. Et c'est une conception de la nation, une conception de la patrie qui est, à mon sens, parfaitement désincarnée, qui est idéaliste et qui, sous couvert de respecter la volonté générale, en réalité impose son diktat. Parce qu'on est ostracisé de cette nation-là dès lors que l'on s'oppose à la loi qui, forcément, doit plier toutes les volontés parce que, soi-disant, elle émane de toute la nation alors qu'en réalité, elle émane d'une petite officine quelconque. Nous envoyons les derniers avatars dans les lois qui ont été votées très dernièrement et contre lesquelles nous avons lutté de toute notre âme de catholique et de français. Et c'est à cette conception-là que je voudrais opposer la conception catholique, la conception du corps mystique de Jésus-Christ. Corps mystique de Jésus-Christ qui est exalté dans la personne de la Vierge Marie. Enfin, je viens à notre chère Mère du Ciel, dans la personne de la Vierge Marie, le jour même de son Assomption. Pourquoi est-elle la récapitulation, si j'ose dire, pourquoi est-elle l'incarnation du corps mystique de Jésus-Christ? Parce qu'elle est, vous le savez, comparée par les pères de l'Église, du reste, au cou. Jésus-Christ étant la tête, et nous autres les êtres humains étant le corps, la Vierge Marie est la médiatrice, la Vierge Marie est la première qui est adhérée à cette tête qu'est Jésus-Christ, non seulement par ses viscères, parce qu'elle en était la mère, mais également par sa volonté, parce qu'elle se soumettait en tout à son Fils. La Vierge Marie a mérité de parvenir au terme de ce que doit être et ce que sera à la fin des temps le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire une entité et spirituelle et corporelle, un corps de gloire. Voilà, enfin, le terme est lâché, le corps de gloire. La Vierge Marie est entrée immédiatement avec son corps dans la gloire du ciel, unie qu'elle était à cette tête qu'est Jésus-Christ. Le Seigneur ne voulait pas la laisser plus longtemps que quelques heures dans le tombeau, si l'on tient qu'elle est morte, ou même pendant un court sommeil, si l'on tient qu'elle s'est simplement endormie. Les deux peuvent être tenus en étant parfaitement catholiques. La Vierge Marie, donc, a été attirée immédiatement dans la gloire du ciel et dans son âme et dans son corps, parce qu'il convenait que celle qui avait adhéré en tout au dessein de Dieu, au dessein de son Fils, au dessein de la tête, lui soit immédiatement réunie dans toute sa personne. La Vierge Marie, c'est le modèle. La Vierge Marie, c'est signum magnum, ce grand signe dans le ciel, comme le dit l'introïte, et comme en fait le dit le chapitre 12e de l'Apocalypse. Il est évidemment ce signe que saint Jean a vu sur l'île de Patmos, lorsqu'il était inspiré pour écrire l'Apocalypse. Mais ce signe-là, il est également notre propre signe. Il doit être le signe de notre patrie. Il doit être le signe de ralliement de ce que l'on appelait jadis les Francs, qui sont aujourd'hui Français. Il doit être il est en réalité ce projet de Dieu sur nous, ou il explicite ce projet de Dieu sur nous. Tous, nous sommes appelés, comme la Vierge Marie, à nous réunir un jour à la tête qu'est le Christ, non seulement dans notre âme, mais également dans notre corps. Voyez comme cette vision-là, qui n'a rien d'idéaliste, parce que l'Assomption de la Vierge Marie dans les cieux est quelque chose d'éminemment réel, même si pour l'instant tout cela nous est voilé, eh bien par la voix des pontifes successifs, c'est-à-dire de ceux qui ont l'assistance du Saint-Esprit, qui parlent au nom de Jésus-Christ, nous en sommes certains, la Vierge Marie est actuellement, et elle nous contemple, avec son beau visage rayonnant de lumière, couronné d'étoiles, la lune sous ses pas et nimbée de soleil, la Vierge Marie nous regarde, la Vierge Marie m'écoute, peut-être va-t-elle me tirer les oreilles de ne pas avoir préparé davantage ce sermon, mais j'en rendrai compte à cette Sainte Mère qui, de toute façon, pardonne à ses prêtres dès que ceux-ci sont un petit peu contrits. Voilà, la Vierge Marie, donc, est notre modèle, et la Vierge Marie nous montre que, en réalité, nous sommes appelés à nous agréger à bien autre chose qu'une nation fictive à laquelle, par notre carte d'identité, nous appartenons, parce que, eh bien, il faut bien respecter le prince, comme nous y invite Saint Paul, et comme le Seigneur Jésus nous y invite lui-même, si nous ne pouvons pas substituer au régime actuel quelque chose de meilleur. Pour l'instant, tenons-nous pour quitte et acceptons bon an, mal an ce régime-là. Mais évidemment, nous sommes citoyens des cieux, comme nous le rappelle saint Paul, premièrement des cieux, et rien ne pourrait nous arracher à ce corps mystique de Jésus-Christ, sinon notre propre péché, un péché endurci qui nous mènerait à la damnation. condamnation, mais si nous suivons tant soit peu les enseignements de Jésus, si nous nous confions entièrement à la Vierge Marie, alors ce à quoi nous appartenons déjà, le corps mystique, nous y serons intégrés dans notre âme et dans notre corps. Voyez cette perspective qui est autrement exaltante, qui permet, contrairement à cette conception nationale, de n'avoir aucun mépris pour quiconque dans l'humanité, parce que tous dans l'humanité sont appelés à faire partie de ce corps mystique. On a tué au nom de la nation, vous l'avez vu non seulement par l'histoire au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, mais par les images toutes récentes de ces deux grandes guerres mondiales, on a tué au nom de la nation, soi-disant. Et la nation a été reconnaissante, voyez quelle reconnaissance elle accorde. Elle panthéonise certains grands esprits, dit-on, des siècles passés, ou encore elle accorde quelques médailles à titre posthume. Est-ce que le Seigneur Jésus en reste là? Bien sûr que non. Le Seigneur Jésus, lui, ne panthéonise personne. Il fait monter dans la gloire des trois personnes divines quiconque veut bien coopérer à son règne. Le Seigneur Jésus ne rétribue pas par une médaille délivrée à titre posthume, mais par l'exaltation non seulement de l'âme, mais du corps, pour un bonheur qui n'aura pas de fin. Voyez de quoi la Vierge Marie est le signum magnum. La Vierge Marie est le signe de cela, et le signe que nous avons un avenir, que nous avons une destinée autrement plus exaltante que cette situation étriquée dans laquelle nous nous trouvons et qui nous fait parfois tirer des soupirs, sinon des larmes et des gémissements, parce que nous ne voyons pas de fin à cette situation-là. De grâce, mes frères, mes chères sœurs, élevons les yeux vers le ciel et soyons persuadés que si nous coopérons tant soit peu, encore une fois, au dessein divin, quels que soient les régimes qui se succéderont sur Terre, quel que soit le déferlement d'idéalisme qui voudrait nous arracher toutes sortes de faux serments, le ciel, lui, nous ouvre grand ses bras parce que Marie y est déjà comme preuve de ce que le Seigneur veut nous donner. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.